cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 29 novembre l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Après un arrêt d'une semaine, vos esprits doivent être maintenant complètement renouvelés dans le désir de la recherche de la vérité. Est vrai ce qui, dans mon jugement, par l'intermédiaire des sens, est adéquat à la réalité. Donc, le réel est vrai et je peux m'y appuyer comme sur du roc lorsqu'il s'agit d'atteindre une réalité non palpable comme la vérité se communique-t-elle à mon intelligence. Le vrai ne qualifie pas la sensation. Nos sensations, tout le domaine sensible qui est en nous, c'est-à-dire les sensations externes des cinq sens, la mémoire, l'imagination, ne sont pas vraies. Elles sont naturelles. Déterminée d'une façon précise sur la nature. Alors, on peut être malade et voir par des yeux, par aux yeux, quand on voit le vert, on peut le voir bleu. Voir le vert, voir le rouge vert, c'est plus gênant. Surtout quand on conduit, et certifié au gendarme, j'ai vu le vert. Le gendarme dira, vos yeux sont malades, cher ami. Et vous payez une amende à cause des yeux malades. La vérité touche l'intelligence, l'acte d'intelligence. C'est par l'activité qu'on touche la vérité. La vérité n'est pas acquise ontologiquement. Elle se fonde sur la réalité. La réalité est mesure. La vérité formelle est dans l'intelligence et pas dans la sensation. Les sensations ne connaissent pas la vérité. C'est très important de comprendre cela. Donc la vérité, vous ne la touchez pas. Vous ne la voyez pas. Vous ne la sentez pas. Quelqu'un, je dis, une mère qui dit à son enfant, oh, je sens très bien que tu mens. Oui, c'est une mère qui dit ça. C'est maternel, mais on ne sent pas la vérité. On sent l'affectivité, on sent les choses sensibles. Une mère dira à son enfant, je viens, tu ne vois pas la vérité, ton nez tourne. Il ne tourne pas du tout. C'est une manière de parler, métaphorique. Mais la vérité touche l'intelligence. Et c'est ça la difficulté, vous comprenez? Parce que si votre intelligence reste liée aux sensations, à votre imagination, si vous ne dépassez pas l'imagination, Aristote souligne une des très grosses difficultés humaines, c'est le dépassement de l'imagination. On reste très facilement dans la fantasia, dans tout ce qui se manifeste. Arriver à dépasser l'imagination, c'est d'atteindre l'intelligible. L'intelligible ne se touche pas, ne se voit pas, mais se saisit. L'intelligence saisit l'intelligibilité. Homme, animal. Animal, ça comporte une certaine crudité, certaine intelligibilité. Homme, une autre intelligibilité. Les cinq universaux contiennent une intelligibilité essentielle, une intelligibilité accidentelle, mais une intelligibilité. Et je saisis cette intelligibilité par l'intelligence, pas par l'imagination, par l'intelligence. Et mon jugement atteint la réalité, l'être. Pas mon appréhension. Mon appréhension ne saisit l'être que par le jugement. C'est un retour sur ce que j'ai saisi où je peux atteindre alors quelque chose de l'être. C'est pour ça qu'il y a un universel univoque et un universel analogique. Quand je saisis animal, tous les animaux que je rencontre sont univoquement animal. Et vous êtes parmi ceux-là. Animal, animal, c'est un vivant qui sent, qui bouge, qui se meut, qui a les cinq sens. On ne le définit pas par l'imagination, vous voyez. Mais les animaux peuvent avoir des imaginations. Il semble bien, quand un animal dort, quand un chien dort, ton imagination marche. Je pourrais se jeter sur vous si j'étais surpris par une colère subite. C'est vrai. Vous voyez un chien qui dort et qui se réveille. Faire attention. Il peut croire que c'est une puce qu'il pique. Et là, il y a un coup de patte, méchamment, pour chasser la puce. Et à ce moment-là, il est dans l'imagination. Il se trompe, parce que la puce, elle est grosse. L'intelligence atteint l'universel, qui a une signification, mais animal, non, non. Il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est un genre. Mais si je dis ceci est un animal, ah, ceci est un animal, voyez le jugement. La vérité n'est que dans le jugement, n'est pas dans l'appréhension. L'appréhension, elle saisit l'acuité. Elle est vraie ou pas vraie, elle saisit. Elle saisit ou elle ne saisit pas. Elle saisit la crudité. Mais le jugement commence avec le jugement d'existence. Dès que je dis « ceci est », alors j'avance cette table, « ceci est ». Et en disant ça, je veux dire que la table a son autonomie dans l'existence. Elle existe en moi, indépendamment de moi. Même si je dors, même si je m'absente, la table demeure. Tandis que ce que je porte dans mon intelligence, si je me mets à m'endormir, ça disparaît. La vérité, elle est dans le jugement. Ceci est. Et c'est pour ça que tout jugement implique qu'on atteint la réalité et que ce qu'on dit est conforme à la réalité. Vous voyez ? C'est ce que saint Thomas donne dans le De Veritate, question 1, article 1, sur la vérité. Il faut voir tous lu cet article. Il y a une traduction, du reste, pour ceux qui ne savent pas très bien le latin. Parce que c'est un article extrêmement intéressant et où saint Thomas précise la vérité et l'adéquation de l'intelligence avec la réalité. La vérité formelle, la vérité ontologique, c'est l'être est intelligible, tout être est intelligible. Donc tout être est vrai. La vérité. Donc il y a deux espèces de vérité, c'est ça qu'il faut bien saisir. Quand on parle de la vérité, on doit toujours préciser. La vérité formelle, elle est dans mon intelligence. Ce que je dis est vrai. Ce que je vous dis maintenant est vrai, je le pense. Alors vous pouvez très bien, en face de cela, dire « Ah non, c'est pas vrai ». Alors, pourquoi ? Et vous donnez votre argumentation. Et on peut discuter. Le vrai métaphysique, ontologique, c'est la réalité elle-même. Il n'y a que pour Dieu, je ne peux pas en parler au point de vue philosophique, puisque je n'ai pas encore prouvé l'existence de Dieu, mais je peux le faire parce que nous croyons en Dieu vrai formel et vrai ontologique de fond qu'un. Il n'y a qu'en Dieu, ça. Mais très facilement, on arrive à confondre le vrai formel et le vrai mais ontologique. Et on arrive à la sincérité. La sincérité, c'est celui qui, dans ses paroles, est conforme à ce qu'il pense. Mais ce n'est pas parce que dans les paroles, vous êtes conforme à ce que vous pensez que vous êtes dans la vérité. Qu'on fait les examens. Aux examens, vous essayez d'être conforme à ce que vous pensez, de dire ce que vous pensez. Et l'examinateur dit « Ah, pardon, c'est pas vrai. » Et comme vous êtes à ce moment-là examiné, vous piquez de la tête. Et vous dites « Peut-être que je suis trompé. » Quand vous n'êtes pas examiné, vous dites, mais pas du tout, je vous l'affirme, c'est ça, c'est ce que je pense. Ah oui, c'est ce que vous pensez, mais ce que vous pensez n'est peut-être pas la vérité. Et ça, c'est élémentaire, ça. Tout le monde peut comprendre ça. Sauf si on tombe, du moins, on confond l'imagination et l'intelligence. Et c'est une distinction qui est très fine. Distinguer ce qu'on imagine et ce qui est. Ce qu'on imagine est dans mon imagination. Alors, les êtres très romantiques vivent dans leur imagination le futur. Le futur, vous ne le touchez pas. Le futur est dans votre imagination. J'imagine un merveilleux voyage. Vous l'imaginez ? Il est vrai dans votre imagination. Et dans votre imagination, c'est quelque chose de vrai, de sincère. Mais la réalité n'est pas nécessairement ce que vous avez imaginé. La réalité, elle dépend de l'expérience que vous avez de cette réalité. Si vous n'avez d'expérience de cette réalité que par les livres, l'histoire, la géographie, vous pouvez très bien ajouter votre imagination. Mais si vous êtes très dans la réalité, faites attention en disant, est-ce que ça a été établi scientifiquement? Est-ce que ce livre de géographie dit toujours la vérité? Vous posez la question. Ou est-ce que c'est un peu romancé? Et en tant que c'est un peu romancé, c'est l'imagination. Donc, vous voyez, il y a une réflexion philosophique sur ce que je pense. Ce que je pense peut être vrai, en ce sens que cela existe. Ça peut être exagéré, en ce sens que ce que je dis est beaucoup plus beau que n'est la réalité. J'en ai ajouté. Mais ça existe vraiment. J'en ai ajouté. J'ai vu ce pays complètement transformé parce que mon ami l'a vu et m'a raconté des choses extraordinaires. Et là-dessus, j'ai pu romancer, imaginer. Constamment, nous vivons dans l'imagination. Constamment. Et on est là pour vous dire, ne vivez pas dans l'imagination, vivez dans le réel. Votre vie chrétienne vous demande d'être réaliste. Parce que la réalité suprême pour nous, c'est Dieu, c'est le Christ. Dieu avec nous. La vérité avec nous. Alors, je continue à essayer de voir avec vous ces deux aspects de la vérité. Parce que c'est ça qui est très important quand j'essaie de voir l'acte au niveau de l'esprit. L'être en acte, qu'est-ce qu'il est au niveau de l'esprit? Bon, l'esprit, il se développe par l'intelligence, pas par l'imagination, mais par l'intelligence et par la volonté. J'ai deux grands développements de mon esprit. Et je connais très bien le développement intellectuel, il est conscient, celui-là. Je connais moins bien mon développement affectif, de la volonté. Je connais moins bien. Il y a beaucoup d'erreurs sur l'intelligence, il y a beaucoup d'erreurs sur la volonté. Comment arriver à avoir une connaissance vraie de l'intelligence? C'est capital. C'est là où joue la critique. L'intelligence est capable de se critiquer elle-même, mais pas n'importe quelle intelligence. C'est une intelligence qui a atteint la sagesse, qui peut se critiquer elle-même. L'intelligence qui est en devenir ne peut pas se critiquer elle-même parce qu'elle n'a pas la mesure de la réalité, la mesure de mon intelligence. Je peux critiquer lorsque je connais la mesure de l'intelligence. Quelle est la mesure de mon intelligence? C'est l'être. Puisque mon intelligence s'éveille avec l'être. Je l'ai vu avec le jugement d'existence. Ceci est. Et c'est la réalité actuelle qui actue mon intelligence, qui éveille mon intelligence. Mon intelligence commence à s'éveiller comme intelligence dans le jugement d'existence, ceci est. Avant cela, mon intelligence ne s'est pas éveillée. Elle a été liée à l'imagination. Celui qui prétend que ceci et ceci est, c'est la même chose, ça prouve que son intelligence ne s'est pas éveillée. C'est ennuyeux pour un professeur de philosophie. Mais en fond, c'est vrai. Tant que vous identifiez ceci et ceci est, ça prouve que vous restez dans l'appréhension. Et vous n'avez pas atteint le jugement. Et vous ne voyez pas le jugement qui exige le contact de l'intelligence avec une réalité existante. Tant que je reste dans le ceci, je reste dans l'acuité, je reste dans l'intelligibilité. Cette intelligibilité existe ou n'existe pas, je ne sais pas, je n'ai pas saisi la différence. Donc, je n'ai pas saisi la différence qui existe entre exister dans mon intelligence sous le mode universel. Quand je dis animal, je suis en face d'un universel générique, animal. Il y a beaucoup d'animaux, des quantités. Mais je n'ai jamais vu animal tout court. Hein. Animal tout court, hein. C'est votre intelligence qui saisit ça. Mais ça n'existe pas. C'est toujours tel animal. Pourquoi? Ah, c'est parce que le ceci est animal, c'est ceci. Mais animal comme animal n'existe pas. Je ne l'avais jamais rencontré. Sauf dans votre intelligence. Vous n'avez jamais rencontré un animal tout court. Vous avez rencontré tel animal. Vous voyez la différence entre ceci et ceci est. Je crois qu'on l'a beaucoup montré avec la première manière de regarder l'être en acte. Et cette première manière de regarder l'être en acte implique l'éveil de l'intelligence. mon intelligence s'éveille dans le jugement d'existence. Et je puis tout de suite, si je fréquente l'écriture, voir que si Dieu dit « je suis », ça me montre tout de suite un jugement d'existence qui est très particulier, parce que regarde l'être premier. Et l'existence que je saisis, moi, est toujours limitée. Dans le jugement d'existence, est toujours limitée. Mais, en disant ceci est, si je réfléchis sur le verbe et le nom, je vois que le nom est limité, qu'il est actué par le verbe être, que le verbe être en lui-même n'a pas de limite. Puisque je peux dire Dieu existe. Puisque je peux dire que toutes les réalités existent ou n'existent pas, mais elles peuvent exister. Donc, j'ai un universel univoque et un universel analogique. Ceci, c'est très très important de comprendre cela. Les deux niveaux de ma vie intellectuelle. Le niveau univoque de toutes les réalités que j'atteins directement par mes sens. Tout ce que j'atteins par mes sens est limité et implique quelque chose de partiel, un singulier particulier, mais limité. Et j'ai à partir de là, nous l'avons vu en critique, nous avons les cinq modalités d'universel. C'est une manière de connaître où mon intelligence est en acte, mais c'est ma raison. C'est ma raison. C'est l'intelligence humaine qui est raisonnable et qui connaît univoquement, par genre et différence spécifique, la définition. Quand je définis quelque chose, genre et différence spécifique, l'homme est un animal raisonnable. Animal raisonnable. Je dirais ça de l'homme, tandis que je définirais autrement la vache. Je ne dirais pas animal raisonnable, je dirais un animal différence spécifique qui donne du lait. C'est la propriété, ça. Parce que je ne connais pas la différence spécifique de la vache. Je connais ses propriétés. Elle donne du lait. La différence spécifique du crapaud. Ouais, étudier. On définit toujours par les propriétés, jamais par les différences spécifiques. La seule différence spécifique que j'atteins, c'est celle de l'homme. Raisonnable. C'est pour ça que je l'aime tellement. Ah, ça, c'est mon petit secret. Raisonnable, oh, raisonnable, oh oui. On se caresse. Mon petit animal, tu es raisonnable. Raisonnable. Et raisonnable, c'est encore univoque. Hein. C'est très humain. C'est encore à mon niveau. Et la propriété, elle est très agréable, capable de sourire, oh, très heureux, capable de parler. Mais le sourire est plus fondamental. Il est premier. L'enfant sourit avant de parler. Et par le sourire, il dit à sa mère beaucoup plus que la première fois qu'il se met à parler. C'est curieux, hein ? Le sourire est plus évolué que la parole. Puis, on précise les cinq. Et puis, à un moment donné, j'arrive au jugement d'existence. Ceci est. Et je réfléchis sur cette qualité du verbe. Je peux très bien. J'ai conçu ce que c'était qu'un verbe. Un verbe est un acte. Il est dans le temps. Il existe. À partir de ce moment-là, mon intelligence dépasse la raison. Ah ! Un moment très important. Mon intelligence est capable de saisir quelque chose d'absolu. Au-delà des sensations. Il est. L'existence, l'être, vous ne l'avez pas senti. Vous en saisissez les conséquences, mais vous n'avez pas ceci, vous ne l'avez pas senti avec vos sensations. Vous l'avez découvert avec l'intelligence. Et ce verbe être existe, montre que la réalité existe, qu'elle est. Et je vois que ce verbe être s'attribue à animal. Cet animal existe. Cet homme existe. Et je peux l'attribuer même à des réalités qui n'ont pas de limites. C'est possible. Être, le verbe être en lui-même n'a pas de limites. Il est. Il est, il a toute espèce de détermination. Je saisis à ce moment-là ce que Aristote dit, l'egetai polakos. Il est dit de multiples façons. L'egetai polakos. L'être est dit de multiples façons. Ah, c'est le premier moment où vous saisissez l'analogie. Par l'attribution. Une attribution qui a de multiples significations. Qui n'a pas une seule signification, mais qui a de multiples significations. Quand je dis « ce chien existe », « ce cheval existe », »,« j'existe ». L'existence du cheval est autre que celle du chien, et autre que la mienne. L'expression d'Aristote est très belle. To anthropo einai, l'être à l'homme. L'être à l'homme, ah oui, c'est vrai, l'être à l'homme est différente que l'être à la vache. C'est sûr. Vous tapez sur la vache, vous dites, ma bonne bête, tu existes. Elle ne comprend pas. Sauf si vous tapez fort. Alors, l'existence est liée à la force de votre amitié. Et puis, vous dites à vous-même, ma brave petite bête, tu existes raisonnablement. Ah, tu existes dans une manière tout à fait particulière. Quand tu n'es pas raisonnable, tu n'es pas digne d'être un homme. Quand tu n'es pas raisonnable, tu n'es pas digne d'être un homme. Tu es en dessous, tu régresses, tu es comme un animal. Quand vous agissez instinctivement, vous chassez les mouches, instinctivement, mais il n'y a pas la queue, il y a la main. Parce que la main chasse avec la queue les mouches. Quand vous n'agissez pas raisonnablement, c'est pas humain. Alors, il y a cette chose très curieuse, c'est que l'intelligence est intelligence séparée. Quand elle atteint l'être, elle est séparée du toucher. Elle est liée au toucher, mais elle atteint quelque chose que le toucher n'atteint pas. Elle atteint l'être. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez parler de vérité. Ça, c'est capital de comprendre ça. Tant qu'on n'a pas atteint l'être, peut-être d'une manière analogique, très vague, mais quand même, l'être à la vache, l'être au chien, l'être au petit vivant, au petit bébé, l'être à vous-même, vous voyez que l'être prend une signification tout autre. En vous, l'être est raisonnable. Il est plus que raisonnable, puisqu'il arrive à se comprendre lui-même. En vous, l'être se comprend lui-même par l'intelligence. C'est extraordinaire, ça. Mais en même temps, il y a quelque chose de très particulier. Dès qu'on a l'intelligence saisit l'être, l'intelligence saisit quelque chose que je ne peux pas assimiler parfaitement. L'être de la vache, comme être de la vache, est inassimilable. Je peux assimiler ce qu'est une vache, un animal qui rumine, un animal qui a deux estomacs, un animal qui donne du lait, vache. Ça, je peux. La crudité de la vache, je l'assimile. Mais l'existence de la vache, c'est quelque chose qui s'impose à mon intelligence comme quelque chose d'unique, comme une réalité que je respecte, que je ne peux pas changer, l'être à la vache. C'est très curieux que la saisie de l'être éveille l'intelligence à respecter quelque chose qui est devant elle et qui est inassimilable, que je respecte par le fait même. Devant l'être, l'intelligence s'incline. L'intelligence ne s'incline pas devant les crudités, elle les assimile. Elle ne s'incline pas, elle les mange, elle les assimile. Tandis que devant l'être, quand je dis cette vache existe, cette vache est là, devant moi, je respecte son être. Je dis elle est. Et immédiatement, je retourne sur moi-même, je dis, et moi, je suis aussi. J'ai quelque quelque chose de commun avec la vache, au niveau de l'existence. Elle existe, j'existe. Mais l'existence de la vache est beaucoup plus lourde que mon existence. Hein. Elle a une opacité. Elle est toujours liée à la quantité. Mon intelligence, ah, elle est capable de saisir l'être. Et l'être n'est pas lié à la matière. Il est acte. Et cet acte, quand je le saisis dans le jugement d'existence, il peut être la mesure de ma connaissance. Il y a un moment extrêmement important dans cette saisie de ceci est, c'est de saisir que l'être devient mesure. C'est-à-dire quelque chose que je respecte infiniment parce que il est indépendamment de moi. Je ne peux pas le modifier. Il est. Et je comprends que mon intelligence, quand elle s'éveille au-delà de la raison, au-delà du raisonnable, mon intelligence, à ce moment-là, doit immédiatement s'incliner devant ce qui est. Ce qui est et mesure de ma connaissance intellectuelle, quelque chose que je respecte, quelque chose que je saisis, mais que je n'assimile pas, je respecte. Je peux bien assimiler la raison d'être, oui, je conçois la raison d'être, mais la raison d'être, en tant qu'elle est elle-même existante, est autre que moi. Et donc même si je conçois raison d'être, si j'ai un concept d'être, l'être que je saisis par le jugement d'existence, je le respecte comme quelque chose qui est autre comme moi. C'est très curieux qu'avec l'être, l'intelligence immédiatement saisit à la fois sa qualité, elle saisit quelque chose que seule l'intelligence saisit. Tous mes sens, mes cinq sens, sont obligés de se taire. Ils ne disent rien de l'être. Ils ne disent rien de l'être comme tel. Ils me montrent des manifestations de l'être. Des manifestations. L'être se manifeste à travers mes sens. L'être se manifeste dans le sensible. Mais ce n'est pas l'être. Au moment où l'intelligence saisit l'être, comme une notion qui dépasse tous ces cas particuliers, l'égétail pour la cause. C'est admirable, ça, cette affirmation d'Aristote. L'égétail pour la cause. L'être se dit de multiples façons. Parce qu'il est dans la sensation, il est dans le toucher, il est... Au moment où je le touche, où je l'atteins, je me soumets à lui. L'intelligence reconnaît quelque chose qui est avant elle. Et d'un autre ordre. Elle n'est pas l'être. Elle n'est pas antérieure à l'être. Alors je comprends tout de suite ce que Étienne Gilson dit il le dit très bien. Il y a deux espèces de philosophie. La philosophie où l'intelligence mesure l'être et où l'être mesure l'intelligence. Vous avez d'un côté le réalisme, de l'autre côté l'idéalisme. Si mon intelligence mesure l'être, elle est avant l'être. Et je suis dans l'idéalisme. Si mon intelligence, au contraire, respecte l'être, je suis en face du réalisme. Je respecte la réalité dans la mesure, je respecte la réalité dans la mesure où je ne l'assimile pas immédiatement. Où il n'y a pas un contact direct, où je l'assimile univoquement. Et je comprends tout de suite les deux registres de ma connaissance, le registre univoque et le registre analogique. Le registre univoque, il dépend directement des cinq sens. Le registre analogique, il est au-dessus. Il dépend de la relation qui existe entre l'être et l'intelligence. Le registre univoque est fondamentalement premier et le registre analogique est en noblesse qualitativement premier. C'est lui qui permet à mon intelligence de s'éveiller. Mon intelligence s'éveille par l'être. Par l'être existant dans les réalités, par l'être actuel qui existe dans la réalité, et non pas par le concept d'être. La scolastique faisait naître l'intelligence par le concept d'être. C'était son erreur. Et non pas par le jugement d'existence de ceci est. Mon intelligence ne s'éveille pas. Mon intelligence est éveillée avant le concept d'être. Elle est éveillée par le jugement « ceci est ». Et elle réfléchit sur « ceci est » pour avoir ce concept d'être. Mais le concept d'être est dans mon intelligence et dépend de mon intelligence, mais pas l'être. C'est très important, ça. C'est là toute la différence entre la scolastique et ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire une philosophie aristotélicienne, réaliste, qui est mesurée par l'être. Tandis que la scolastique, au fond, c'est l'intelligence qui fabrique le concept de l'être. C'est mon concept. J'ai jamais rencontré le concept d'être. Mais je l'ai en moi. Et je le possède en moi. Et c'est vrai, c'est mon intelligence qui le possède. Mais mon intelligence le possède après avoir affirmé ceci est. Et avoir reconnu que l'être existant mesure mon intelligence. Parce que c'est là où toutes les confusions se font. Nous reviendrons là-dessus. Hein. Si vous avez des questions, il faut les poser, parce que c'est très important, ça. De voir que l'intelligence est vraie si elle est conforme à la réalité qui, elle, est vraie. Et que la réalité est ontologiquement vraie avant l'intelligence. Et que l'intelligence possède la vérité par le vrai de la réalité.